Et souhaiter la bienvenue à Léa sur ce nouvel épisode. Salut Léa et bienvenue derrière mon micro. Bah, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter et puis je te poserai mes questions juste après.
Bah, écoute, merci beaucoup Aline de m'inviter sur ton podcast. Ça fait plaisir. Alors, me présenter, bah, donc Léa, bientôt je change de dizaine. Et je travaille actuellement, je suis dans la communication depuis toujours. Et là, je suis, on va dire, communication manager pour faire court dans une start-up française qui s'appelle Feelback. Et d'où je viens, bah, de France, de la région parisienne, plus précisément de... Enfin, j'ai fait plusieurs endroits, mais on va dire des Yvelines. Et voilà, je pense que j'ai répondu à toutes tes questions déjà, enfin sur la présentation.
Au premier, on va faire le tour des autres questions après. Moi, j'ai fait ta connaissance sur LinkedIn suite à un post que tu as partagé, post sur lequel on va revenir. Et du coup, bah, avant même d'en venir au post, moi, je posais la question, c'est ben, qu'est-ce qui fait que tu quittes la France pour aller au Canada ? Ça, c'est une question qui m'intrigue et que je pose toujours à mes invités.
Bien sûr. Alors moi, du coup, pour moi, la question, elle est double. Déjà, qu'est-ce qui fait que je quitte la France ? Ce qui n'est pas la même raison de pourquoi je vais au Canada. Ce qui fait que je quitte la France, ça a toujours fait partie de moi. Je sais pas si tu te souviens, quand tu étais petit, je pense qu'on se projette tous un peu dans une vie d'adulte qu'on peut imaginer, enfin dans notre simple imaginaire. Et moi, personnellement, je pense que, alors peut-être pas enfant, mais on va dire à l'adolescence, collège, lycée, je me suis toujours projeté dans une vie peut-être un peu standard, mais il n'y avait jamais de géolocalisation. Genre, il n'y avait jamais, c'est forcément en France ou quoi que ce soit. Je me suis toujours imaginé vivre un morceau de vie, peu importe combien de temps ça pouvait durer, à l'étranger. Donc, en fait, ça fait partie de moi. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ça fait partie de moi. Donc, pour moi, c'était la suite logique des choses. Comme tu as des personnes qui vont, qui veulent absolument avoir, je sais pas, des enfants, acheter une maison, enfin, j'en sais rien, je prends des choses hyper classiques, mais voilà. Pour moi, partir vivre à l'étranger, c'était juste la suite logique de ma vie. Et pourquoi le Canada? J'ai pas un attrait particulier pour ce pays. J'ai tendance à dire que j'ai plus déménagé à Toronto avant de déménager au Canada, parce que c'est une ville que j'ai découvert il y a 3 ans et demi en partant en vacances pendant l'été, et je m'y suis sentie bien. J'ai eu un petit coup de cœur un petit peu pour la ville. J'étais en vacances, mais j'avais quand même un peu un rythme où je prenais les transports, etc., parce que j'étais dans une école de langue. Donc je me levais tôt le matin, je prenais le métro, etc., ce qui m'a permis quand même de me rendre compte un peu d'un quotidien en dehors des vacances. Et voilà, je m'y suis sentie très bien, et c'était la première fois que je me projetais et que je me disais non, mais clairement je me vois bien faire un quotidien ici. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'est envisagé comme ça, en fait, et que j'ai atterri au Canada.
Et ça, c'était quand? Quand est-ce que tu découvres Toronto?
Été 2018. Ouais, été 2018.
Donc ouais, comment dire, entre le moment où tu visites la ville et tu décides d'y revenir, ouais, c'est relativement rapide.
Bah, en fait, j'ai un peu un genre de blackout entre le moment où je rentre en France et le moment où je...
Ça s'appelle une amnésie.
Ouais. Je sais pas trop.
Qu'est-ce qui s'est passé entre? Je sais pas.
Bah, en fait, je me vois encore dans les rues de Toronto à me dire non, mais je m'y vois bien. Et après, je suis rentrée en France et je pense que j'ai tout simplement repris le taf et que je suis retournée un peu dans ma routine. Mais j'avais pas forcément mis en place, j'avais pas une vraie réflexion de me dire ok, alors maintenant, tu vas vraiment te poser, regarder ce qui est possible de faire et voir comment tu peux partir vivre là-bas. Et en fait, le déclenchement des actions, si on peut dire, c'est venu d'une ancienne copine qui, elle, pour le coup, son pays de cœur, c'était le Japon. Et on avait parlé d'expatriation, je pense, plusieurs années auparavant. Et elle est revenue vers moi en me disant « Coucou Léa, écoute, je sais qu'on avait parlé de ce sujet-là il y a quelques temps. Et du coup, moi, ça y est, je me lance, je prépare mon PVT pour le Japon. » Voilà, du coup je t'en fais part parce qu'on en avait discuté ensemble, et c'est à partir de ce moment-là où vraiment je me suis mise en action pour bouger, mais c'était un an plus tard, c'était été 2019, tu vois.
D'accord. Je vais, comment dire, du coup, bah, je vais venir à ce qui a fait qu'on enregistre aujourd'hui. Il y a une semaine, 10 jours, t'as, non, je crois une dizaine de jours, tu avais diffusé un article sur un post sur LinkedIn. Je t'avais contacté sans savoir que celui que l'article que le post suivant allait avoir encore plus d'impact chez moi. Donc, comment dire,
C'est vrai.
faut croire que. Non, parce que c'est en fait, c'est en relisant tes posts que je me suis rendu compte que je t'avais contacté sur un article et ce qui nous amène à enregistrer aujourd'hui, c'est celui que tu as posté après.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
C'est un peu, tu sais, c'est comme quand tu mets le pied, tiens, tu sais, dans l'ouverture de la porte, ne sachant pas trop ce qui va se passer. Sur le premier poste, donc tu parlais d'un départ. Pour le Canada. Et dans le deuxième, donc celui qui date d'une semaine ou un peu moins même, moi le titre, alors je vais pas dire que le titre m'a choqué, mais m'a surpris, c'est en une semaine j'ai vu. Et avant même de dérouler l'intégralité du poste, je m'attendais à un choc culturel en fait. Et en déroulant le poste, effectivement, bah, c'est ce qu'il y a eu. Alors un choc culturel pour une personne, je veux dire, qui a peut-être pas voyagé, ou qui sait pas trop ce qui se passe hors de ses frontières, mais tu décris un quotidien, tu décris des personnes, et parfois ce qui peut être triste, c'est qu'en fait, c'est qu'il faut voyager très loin pour les voir, alors que concrètement, tu peux les croiser en bas de chez toi.
Ouais, c'est exactement ça.
Et c'est ça, parce que, non, parce qu'en fait, c'est la première phrase, c'est deux hommes avec un turban, moi, ça a été à Oslo, quoi. J'avais l'impression d'en voir partout. Alors,
Ouais, alors que
je suis
moi, en
persuadé qu'il y en a
France,
plus en France. Après, ouais,
ouais,
c'est
bien sûr.
compliqué. C'est quand même, tu sais, y a pas de statistiques ethniques ou religieuses, mais voilà. Mais donc, du coup, la question, c'est du coup, qu'est-ce qui te frappe quand tu arrives à Toronto?
Alors, moi, je suis un peu biaisé parce que c'est ma quatrième fois en Amérique du Nord. Je précise Amérique du Nord parce qu'il faut savoir que les États-Unis et le Canada, ce sont des pays. Enfin, l'Amérique du Nord, c'est pas comme un grand pays, mais d'un point de vue culturel, ce sont deux pays qui sont très proches. Et sur le sujet justement du, j'allais inventer un mot, mais en fait, j'allais dire du, je sais pas comment ça se dit, mais sur le sujet en fait du mix culturel et d'une population cosmopolite, c'est des pays qui se rapprochent quand même beaucoup. Donc ça, en vrai, ça n'a pas été une surprise là à mon arrivée il y a 2 semaines. Mais ça a été une vraie surprise la première fois que j'ai été aux États-Unis. Déjà, juste en allumant la télé. C'est-à-dire que j'avais même pas besoin d'aller dans la rue. Juste en allumant la télé, je n'avais jamais vu une télé aussi colorée et diversifiée. Et quand je dis colorée, je précise que je mets les blancs dedans, hein. C'est pas les blancs et les gens de couleur, c'est tout le monde. C'est un arc-en-ciel, un mix. Pas comment on appelle ça, mais pour moi, c'est important de le préciser. Et en fait, je me suis aperçu que dans des pubs, ce qui m'a le plus frappé, on parle peut-être de la population noire, mais il n'y a pas que, il y a plein d'autres populations qui sont totalement sous-représentées, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes, par exemple, asiatiques, typées asiatiques, dans les pubs. Et j'étais assez surpris parce que j'avais à l'époque 21 ans et c'était pas comme ça que j'avais été biberonné à la télé, quoi. Clairement, c'était pas ce que mes yeux avaient l'habitude de voir. En fait, c'est aussi bête que ça. Et ça a été pareil pour d'autres typologies d'ethnies et de personnes, que ce soit des personnes noires. Et en je dis Asie, mais l'Asie, c'est très très large. Donc, que ce soit Asie de l'Est ou Middle East ou peu importe. Mais voilà, donc c'est un peu la première fois que j'ai eu ce choc culturel. Et là, en l'occurrence, pour revenir sur le post que j'avais déjà il y a une semaine, vu que je crée du contenu sur LinkedIn, j'avais envie de le partager parce que je sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas forcément à ça au Canada. La première fois que j'étais venue, j'avais pas beaucoup regardé la télé et du coup, j'ai pas. C'est quelque chose que j'avais observé dans la rue, pendant mes sorties, en allant faire des courses, du shopping, etc. Mais c'était pas quelque chose que j'avais observé, voilà, dans les médias. Parce qu'au final, en France, c'est la même chose. Aujourd'hui, si je prends la région parisienne, parce que moi, c'est là où j'ai grandi et c'est ce que je connais, tu vas en Île-de-France, tu vas dans certains, je sais pas, tu vas dans un centre commercial, évidemment, tu vas croiser beaucoup de, enfin, une population assez diversifiée. Mais quand tu rentres le soir chez toi et que tu allumes ta télé, tu vois toujours les mêmes têtes, enfin, toujours la même typologie de personnes. Donc là, en l'occurrence, c'est que ce que j'aime, c'est qu'il y a de tout, partout. Moi, je suis arrivé, bah, tu sais, tu me parlais d'un choc quand tu es arrivé là. Je suis arrivé à l'aéroport à Toronto bah, il y a 2 semaines. J'arrive à l'endroit pour récupérer les bagages. Et là, un 4x3, même beaucoup plus grand que ça, je pense, énorme, une pub énorme dans l'aéroport avec justement un homme avec un turban qui faisait une pub pour, je sais pas, ça devait être un opérateur mobile ou un truc dans le genre, quoi. J'étais là, mais... Vu qu'en plus les trucs étaient géants, genre vraiment, ça prenait tout l'aéroport, cette pub.
Tu peux pas la rater en fait.
Ah ben non, c'est sûr. Genre vraiment, ça te saute aux yeux. Je me rappelle, en plus, il y avait un gros fond rose fuchsia, tu vois, donc le truc te saute aux yeux. Et
C'est
tu sais.
une étude sociologique le truc en fait.
Ah mais totalement. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas d'hypocrisie comme peuvent le faire par exemple certaines marques dans le marketing, et encore là c'est encore un autre sujet que les médias, mais du genre on est inclusif, on met des personnes noires, mais bon c'est plutôt des métisses quand même quoi. On met des mannequins grande taille, mais bon elles ont pas de bourrelet dans le dos, tu vois. Ou alors on la met derrière la mannequin qui est un peu plus mince, genre et puis on la met dans une pose où du coup la petite vergeture qu'elle a, bah, de toute façon, on la verra pas. Genre, là, c'est, bah, t'as un turban, t'as un turban. T'as les yeux bridés, t'as les yeux bridés. T'as un afro, t'as un afro. T'as les cheveux blancs, t'as les cheveux blancs, quoi. Y a pas de demi-mesure. On te prend comme t'es. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est pas, moi, je suis quelqu'un d'entier. Et les demi, les pseudos, je sais pas quoi, là, ça me fatigue. Voilà un petit peu pour le contexte, et voilà pourquoi j'ai voulu prendre aussi la parole là-dessus, enfin, de publier ce post, parce que ça fait partie, plus récemment, comme je te l'avais expliqué, d'une des raisons pour lesquelles je suis parti. C'est un argument, la représentativité, c'est un argument qui est venu s'ajouter. Là, récemment, je dirais, sur la dernière année avant mon départ, quoi.
J'allais dire c'est marrant, comment dire, c'est pas marrant, mais c'est triste. Il y a eu je pense que tu as dû la voir, la couverture d'un magazine de mode où, sans prévenir l'actrice ou le modèle, ils lui ont retiré sa coupe, ils lui ont retiré une partie de sa coupe afro.
J'ai pas entendu ça, mais alors c'est la meilleure.
Ouais, mais c'est passé
Trop bien.
récemment en fait. Elle est de, comment dire, faudrait que je la retrouve. Je te l'enverrai. Elle est de trois quarts. Donc elle a les cheveux très courts, en fait, c'est, comment dire, elle a un chignon, donc ses cheveux sont aplatis sur le dessus, et elle a un chignon, mais tu vois clairement qu'elle a une coupe afro. Et en fait, donc elle est shootée de cette manière, et lorsque le magazine sort, en fait, on lui a retiré son chignon afro. Mais sans lui demander.
Incroyable.
Et sans lui présenter la couverture avant.
Mais je n'ai même pas les mots.
C'est
Mais
sur
tu vois, en
Grazia,
fait,
ça me revient, c'est sur Grazia.
d'accord, j'irai voir ça. Mais c'est en fait, c'est un vrai problème, ça, parce que bon, après, on va pas refaire l'histoire, je veux dire, mais le rapport, déjà, enfin, pour l'être, pour le vivre et pour l'avoir vécu, c'est tellement compliqué, déjà, quand tu es une femme noire, d'aimer ses cheveux. Quand tu regardes l'histoire et tout ce qui a été fait pour absolument ressembler aux personnes caucasiennes, c'est flippant. Mais quand en plus tu vois qu'aujourd'hui on est très très loin de, c'est, t'as des personnes qui vont te dire ouais mais les lignes elles bougent, etc. Non mais Instagram c'est pas la vraie vie. C'est pas parce que tu suis 10 comptes de filles qui s'assument avec leurs cheveux frisés afro ou là je parle pour ce que je connais, mais ça pourrait être d'autres, peut-être il y a peut-être d'autres complexes dans capillaire chez d'autres femmes d'autres ethnies, mais en fait c'est pas la vraie vie, tu vois. C'est pas 10 comptes Instagram qui font le reflet de la planète entière. Donc en fait, enfin moi je trouve ça d'une tristesse. Et derrière, comment tu veux en vouloir aux autres personnes qui du coup sont pas concernées par tes problèmes, enfin par tes problèmes, qui ne sont pas concernés par ces sujets-là, qui ne sont pas directement touchés, comment tu peux leur en vouloir de vouloir toucher tes cheveux, de vouloir de poser des questions, mais complètement stupides, genre vraiment, genre moi j'ai eu des questions, mais c'est bon cerveau quoi. Mais en fait, tu peux pas les blâmer. Comment tu veux en vouloir à un patron qui va venir te dire qu'un afro c'est pas pro? Le gars, il regarde le JT de 20h, il a pas d'afro. Il regarde tous les PDG de France, de et d'ailleurs, il achète son magazine Management, il voit pas d'afro. Il regarde Patron Incognito et compagnie, il voit pas d'afro. Il lit Le Monde, il voit pas d'afro. Il n'y en a pas. Comment veux-tu qu'ils se disent c'est ok, sachant que oui, par rapport à une fille qui arrive avec les cheveux raides jusqu'en bas du dos, ça fait plus brouillon. Tu vois? Comment veux-tu qu'ils pensent à autre chose? On a eu les victoires de Miss France à chaque fois pendant 3 semaines. Ah oui, avec sa coupe de Lyon et je sais pas trop quoi. Et ça part dans des débats, mais oh, les gens ont du temps à perdre.
C'est incroyable. Comment dire, les gens ont du temps à perdre et des neurones à perdre. Mais après, c'est vrai, ce qui est... Je l'ai vu encore, écoute, c'est très simple. J'ai arrêté Facebook parce qu'en fait, c'est une... Tu peux pas être... Je parle du principe, c'est que tu ne peux pas être sain d'esprit, aller sur Facebook et garder l'intégralité de tes neurones intacts en fin de journée. C'est pas possible. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Mais pour des raisons pro, j'ai un compte, mais qui est vide. Y a rien dessus. Il y a pas longtemps, il y a une amie, elle me dit, tu sais que c'est hyper vexant, c'est qu'on peut pas t'ajouter comme ami sur Facebook. J'ai retiré l'option. Non, moi, ça me bat très bien. Décathlon a fait une publicité, donc là, on enregistre, on est le 14 février, Décathlon a diffusé une publicité où on parle de dessin. C'est-à-dire, c'est du ce qu'on pourrait appeler du... Parce que tu vois, du motion design. Donc, ouais. Ils ont représenté 5-6 personnes en train de se prendre dans les bras. Et on en revient à la coupe. Donc, en fait, t'as quelqu'un qui a l'impression, soit il a une coupe afro, elle est toute blanche, soit c'est une personne qui peut avoir un foulard. À côté, par contre, t'as un vrai afro. Et t'as pas de visage, en fait, les traits du visage ne sont pas dessinés. T'as pas de... Il n'y a pas les yeux, il n'y a pas le nez, il n'y a pas la bouche. Je te promets que je me suis amusé à regarder les commentaires. Des gens ont trouvé... Comment dire, on est parti sur des propos racistes. Parce que Decathlon, en fait, a choisi de ne choquer aucune culture. C'est d'après les commentaires. En refusant de dessiner les yeux, le nez et la bouche. Mais à quel moment tu vois ce dessin, tu te dis en fait il y a une arrière-pensée où Décathlon, ne voulant pas faire de vagues, refuse de dessiner des yeux, une bouche et un nez. Et tu avais à peu près 200-250 commentaires. Et les gens se répondent. Et là en fait, mais c'est vraiment, j'ai regardé ça. C'est comme quand tu. C'est comme dit l'humoriste Haroun, c'est comme quand tu jettes une biche à des lions, tu sais. Et tu regardes. C'est qu'en fait, on est en capacité de se créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et même là où il n'y a pas de raison d'avoir de problème, c'est les gens sont partis dans des débats racistes là-dessus. Parce que Décathlon n'a pas dessiné de bouche, de yeux et de nez.
Alors moi, après, je ne vais pas trop prendre la parole sur le sujet du racisme. Pas dans le sens où je ne veux pas, mais dans le sens où je suis trop ignorante sur le sujet pour pouvoir apporter de vraies choses. Par contre, c'est clair que c'est pas du tout rare de voir ce genre de débat, des gens qui ont l'impression qu'ils ont la science infuse et qui débattent, c'est du non-débat en fait, parce qu'il n'y a pas de débat à avoir. Et je trouve qu'en fait, ça aide absolument pas aucune cause, parce que ça continue de venir marginaliser en fait, certaines populations, certaines. Et tout ce qui va avec, en fait. C'est un vrai... Ce que tu me dis, ça me fait penser au scandale H&M qu'il y a eu avec le petit garçon, là. Ces trucs-là, c'était...
Je m'en souviens. Quoi.
Genre, les gars sont allés péter un magasin H&M, mais du coup, vous savez que les vendeurs ne font pas le marketing de la marque, déjà, première chose. Que deux, casser des vitres, pas ça qui... c'est pas une solution. Et qu'en plus...
Ça fait rarement avancer un débat, quoi.
Non, c'est sûr. Et qu'en plus, ce que je trouve débile, c'est que c'est contre-productif. Ils ont mis deux gamins et ils ont mis un petit gamin noir avec un pull, avec une phrase dessus, avec le mot singe.
Avec le mot singe, ouais, je m'en rappelle.
Mais ils ont eu raison de le mettre sur le gamin noir. Parce que s'ils l'avaient mis sur le gamin blanc, de toute façon, ils se seraient fait péter leur magasin aussi parce qu'ils seraient allés dire, oui, mais du coup, vous voulez mettre sur le gamin blanc pour pas choquer les personnes, nanani, nanana. Mais en fait, si on n'en était plus à ce débat de noir égale singe et compagnie, ça n'existerait plus, on ne se poserait pas la question. Et en fait, le problème, c'est que tu vois, que tu m'as dit pour Gradia, là, la pub Decathlon et le truc H&M et tous les autres cas similaires, le problème, c'est que c'est un phénomène, deux phénomènes par an. Le problème, c'est que c'est pas normalisé. Moi, hier soir, j'ai dîné devant la télé, je suis tombée sur une nouvelle émission, j'ai adoré le concept, c'est un plateau, en gros, ils sont dans un supermarché, ils doivent aller chercher, ils ont des questions-réponses, ils doivent aller chercher des trucs dans les supermarchés, dans le supermarché, etc. Enfin, c'est hyper drôle. La présentatrice de cette émission, elle n'a aucun standard de beauté. Elle est noire, elle a un afro, elle est pas jeune. Franchement, je sais pas quelle. Je crois que c'est une humoriste aussi. Elle doit faire du stand-up ou quelque chose comme ça. Je sais pas quel âge elle a, mais pour moi, c'est une femme qui a plus de 45 ans, ou en tout cas, enfin, c'est pas une gamine de 20 ans, si tu veux. Elle est pas fine. Elle a son petit ventre. Enfin, elle est très bien comme elle est. Elle était pas habillée dans un style genre à faire semblant, genre je kiffe de porter des 12 cm parce que c'est trop bien. Personne kiffe ça, d'accord? Aucune femme n'aime ça, faut arrêter, vraiment. Non mais parce qu'en fait on a l'impression que mais tous les mannequins que vous voyez là, elles sont payées pour porter ces trucs-là, d'accord? C'est pas un kiff en fait. Il faut vraiment arrêter avec ça. Donc en fait et j'ai regardé et cette personne, c'est la daronne que tu vas croiser au supermarché, que tu vas croiser à la sortie de l'école, d'accord? C'est ta voisine, c'est ta banquière, c'est la caissière de chez Picard, c'est une personne, c'est lambda, tu meurs. Et là, elle présente une émission. Et elle est drôle, et je l'ai entendue dire, je crois, il me semble qu'elle est morte, je la connais pas en vrai, mais elle présente une émission qui a l'air quand même d'avoir sa petite fame, enfin, je pense pas que ce soit un truc peu connu, enfin. Et là, j'étais là, mais. Donc, en fait, En fait, le truc, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai encore ce choc, parce que. Enfin, ce choc. Je suis encore surprise à chaque fois, tu vois, comme tous les exemples que j'ai pu citer dans ce fameux post, justement. C'est des exemples qui m'ont marqué et je les ai retenus, parce qu'encore une fois, de là où je viens, c'est pas normalisé. Mais quand ce sera normalisé, enfin, quand? Si, parce que je sais pas que je sais pas quel mot il faut mettre,
On sera
mais en
plus
fait c'est
là.
le fait que ouais je sais pas, mais en tout cas c'est le fait que ça soit pas normalisé qui fait que tout crée un scandale, tout crée le choc, tout crée le mais en fait c'est parce que juste ces gens-là vous ne les voyez pas, vous ne les voyez jamais, donc vous avez l'impression que quand on les met en avant, il y a forcément un truc à dire, ou il y a forcément une arrière-pensée. Mais en fait, juste respire un coup et tout va bien se passer. Et après,
Et t'as ce terme qui est
ouais.
magique, c'est énorme, mais c'est exotique.
Oui, bah alors ça.
Je peux plus.
Qu'est-ce que l'exotisme? Ça me.
Je peux plus. Je peux plus. C'est... Non, non, mais c'est comment dire, ce qui est intéressant, c'est quand ton échange, c'est que pour avoir beaucoup voyagé, et même on en parlait juste avant, c'est que je. Et on a aussi cette culture. Je dis on a comment dire c'est on vient de France tous les deux où en fait c'est souvent en fait la fois t'es rejeté sur l'autre. Moi j'ai été en Norvège, on m'a dit que la Norvège c'était ultra raciste et que j'allais passer les pires vacances de ma vie. Non. Non, j'ai passé de très bonnes vacances en Norvège et j'ai pas été confronté à quoi que ce soit et j'ai pas vu quoi que ce soit. Comment dire le seul moment, on va dire, violent ou de violent que j'ai vu en Norvège, c'est lorsqu'une nana, en fait, s'est mise à faire le salut nazi dans la rue. Et qu'elle s'est retrouvée en à peu près 30 secondes, montre en main, pliée en quatre à l'arrière d'une voiture de police. Et on t'explique gentiment, non, mais ça, nous, on n'en veut pas. Donc voilà, eh bien.
Mais je pense que déjà, pour moi, c'est du vrai bullshit que de dire tel pays est raciste ou tel pays n'est pas raciste. Enfin, c'est qu'il ne fait pas un pays raciste ou pas raciste. Il y a des pays avec des gens dedans et du racisme. Ou des personnes racistes.
Ah non,
Mais
mais
du
comment
coup,
dire, il y en aura partout, il y en aura de tout temps. Mais c'est, mais comment dire, mais même ce type de propos-là, oui, c'est normalisé. C'est quand, comment dire, c'est
Bah ouais.
quand t'as un présentateur de JT qui te dit aux États-Unis pour réussir, il faut être sportif, quand t'es noir, pas complètement. Mais
Non, mais comment?
Enfin, pour revenir à ton poste, et ce que je disais en intro, c'est dans le poste, tu parles de 5, quoi, c'est 5 970 km ou...
Ouais, j'ai fait le calcul entre la ville et Toronto et Google Maps, il m'a dit 5974.
5 974, j'étais pas loin. Du coup, maintenant que tu es à Toronto, que tu as vu, bah, en fait, qu'autre chose existait, qu'autre chose était possible. Du coup, est-ce que tu envisages, comment dire, c'est de rester sur le long terme là-bas, de rentrer en France, d'envisager un autre pays?
Alors. Pour moi, là, mon départ, c'est un aller simple. D'ailleurs, j'ai pris un billet aller simple. Donc, je suis pas.
En dit beaucoup.
Bah, non, mais c'est vrai. Donc, moi, là, je suis là pour au moins 2 ans. Je me projette absolument pas plus tard. C'est-à-dire que mon objectif, j'ai aucune idée de si je vais kiffer autant que j'ai pu kiffer la première fois. Ou si dans 6 mois je vais pas changer d'avis, j'en sais rien en fait. Je suis pas Madame Irma, donc en vrai j'ai pas de boule de cristal dans laquelle je peux prédire ce qui va se passer pour moi. Là, pour moi, c'est 2 ans ou moins ou plus. Enfin, en tout cas, les 2 ans pour lesquels je suis autorisé à être là pour l'instant, d'un point de vue légal, c'est simplement c'est le moyen d'expérimenter, de tester. C'est un pays où le climat est quand même assez différent d'une autre. Donc, est-ce que c'est quelque chose avec lequel est-ce que c'est une chose avec laquelle je vais être OK pendant les 4 saisons? Là je suis sur Toronto et pour l'instant c'est Toronto qui m'intéresse, mais du coup est-ce que je vais pas avoir envie de m'ouvrir à d'autres provinces, d'autres villes? Est-ce que finalement je vais pas plus tard changer de pays? J'en sais rien. Ça dépendra de quelles opportunités je vais réussir à provoquer, quelles opportunités je vais réussir à saisir, le niveau de résilience, d'endurance et de courage que ça va demander et le niveau de chance que je pourrais avoir. Franchement, pour l'instant, j'en sais rien. Je suis dans un mood où je me laisse. En fait, je suis en mode expérience. Je me laisse le temps déjà d'arriver, de prendre mes marques, de m'installer et j'essaie pas de prédire un futur qui, de toute façon, n'est pas prévisible. J'essaie quand même de me dire, OK, sur le plan, je sais pas, financier, santé, etc., je fais au mieux pour me préserver et pour avoir des filets de sécurité et pour pas me mettre dans une situation dangereuse. Mais ça s'arrête là, en fait. Je me laisse le temps d'expérimenter et de voir. Je peux pas avoir de certitude aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt et ce serait pas, selon moi, après c'est mon point de vue, mais ce serait pas intéressant, en fait. Parce que dans ces cas-là, j'aurais pas pris un visa de 2 ans, j'aurais pris, tu vois, un truc de touriste de 6 mois et puis je fais mon kiff pendant 6 mois puis je reviens au bercail. Maintenant, par contre, je suis absolument pas dans un. Si là, je devais donner des éléments de réponse encore une fois, c'est dans le mood dans lequel je suis aujourd'hui. Je suis absolument pas, tourné vers la France. J'ai même envie de tourner le dos à la France. Pas en mode ouais j'aime pas mon pays etc. C'est pas du tout ce discours-là, hein. Pas du tout comme ça, mais dans le sens où ça y est, j'ai vu, je connais, tu vois. Là maintenant j'ai besoin. Il y a beaucoup de différences contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en Amérique du Nord en pensant que c'est genre une Europe en plus grand. C'est très différent, il y a beaucoup de choses qui sont différentes dans le quotidien, dans leur fonctionnement, dans la mentalité. Comme j'ai dit, moi c'est ma 4e fois ici, donc il y a déjà des choses auxquelles je suis habitué. Mais je me laisse le temps de voir est-ce que dans une vraie vie du quotidien, ça va me correspondre ou au contraire, est-ce que ça va me saouler et que je vais vouloir retrouver mes repères français ou chercher d'autres repères. Voilà.
Mais du coup, ce qu'on vient d'évoquer, est-ce que c'est un élément qui, si j'ai bien compris, lorsque tu as quitté la France pour Toronto, c'était, comment dire, ça tu l'avais pas en tête, ou c'était pas aussi ancré. Est-ce que maintenant, c'est un élément que tu vas prendre en compte pour un éventuel retour en France, par exemple? Est-ce que maintenant, ça va peser dans ta décision?
Bonne question. Bonne question parce que je ne me l'étais pas posée. J'imagine que ça peut être un nouvel argument de rentrer ou pas rentrer. Dans le sens où ce sujet de la représentativité, tu vois, commençait à me peser, comme je te dis, depuis, je pense, environ un an. Mais je pense que c'est plus lié à la maturité, au fait que je prenais de l'âge, au fait que je commençais à avancer dans ma vie, et que autant le fait de d'être très peu représenté déjà dans ma vie privée par rapport à mon cercle d'amis, etc., ou dans la vie publique de la France, là où c'était moins un problème au début de ma vingtaine, à la fin de la vingtaine, c'était devenu, ça me pesait plus. Donc c'est possible que ça devienne une case à cocher pour un retour en France, mais du coup ça voudrait dire que je reviendrai jamais parce que enfin c'est pas dans 2 ans qu'il va se passer quoi que ce soit, faut arrêter de se leurrer, hein. Dans 10 ans j'en sais rien, mais possiblement. En fait ça va surtout dépendre de comment je me sens, parce qu'encore une fois je pars pas du principe que ici tout est parfait. Et que chez nous, tout est imparfait. Tu vois. Genre, vraiment, pas du tout. Je vais voir ce que ça donne. Je sais que tout n'est pas parfait parce qu'il n'y a aucun pays qui est parfait. Et selon comment je me sens, ça se trouve, tu vois, je vais, même encore ici, je vais pas forcément me sentir hyper bien. Tu vois, j'en sais rien. Mais pour un retour en France. Je sais pas, ouais, peut-être que ça peut s'ajouter à la liste. Et surtout, je pense qu'en fait, ça va être du coup un choc culturel, mais dans l'autre sens.
J'en parlais il n'y a pas plus tard que jeudi dernier lors d'une réunion avec plusieurs entrepreneurs. Et il y avait notamment un Français qui est d'origine vietnamienne. Et en fait, et on parlait donc des allers-retours. Lui, il a une activité en France et des ateliers au Vietnam. Et pareil, en fait, c'est le plus gros choc pour lui, ça a été en fait le retour en France. Et toutes les personnes autour de la table, on était quelques-uns à avoir pas mal voyagé, voire même vécu à l'étranger. En fait, et on s'est tous rendu compte que le plus gros choc a été le retour en France.
Sur ce sujet-là spécifiquement, ou de manière plus globale?
Non, de manière globale. De manière globale, parce qu'en fait, si on part avec des a priori sur un pays, il s'avère que des fois, bah, ça match, les a priori matchent avec la réalité ou pas. Et en fait, on part avec des certitudes, parce qu'on parle avec des certitudes concernant la France, parce qu'on connaît la France. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est que lorsqu'on revient, quel que soit le temps qu'on a le temps passé à l'étranger, on revient avec un nouveau mindset. Et ce qui était normal, ce qui était tu sais, des certitudes très ancrées en nous, très solides, avec des racines très 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 très, très solides, en fait, on se rend compte non, que c'est une autre réalité. Que c'est pas une certitude, c'est juste une autre réalité. Et en fait, on partageait tous le même opi la même opinion, qui était, en fait, c'est partir à l'étranger, certes, c'est une aventure, mais le retour en France, c'est un choc auquel on n'est pas prêt.
C'est vrai parce que quand je suis partie aux États-Unis la première fois, je suis partie 3 mois. Bon, 3 mois, c'est pas une vie, hein, mais c'est une période quand même assez longue pour t'acclimater à un pays et comme en comprendre un petit peu les rouages, rencontrer des personnes locales, échanger, etc., etc., et t'ouvrir du coup à quelque chose de différent. Et pourtant, avant mon retour en France, j'en avais marre, hein, de la Floride. C'était peut-être sympa, mais il y avait des choses quand même de France qui me manquaient. Et quand je suis rentrée en France, mais je pense que j'ai été insupportable pendant des mois, en fait. Parce que déjà, tu cours partout.
Pourquoi?
Déjà, tu cours partout. En plus, je te parle de ça, j'avais, tu vois, j'ai fêté mes 22 ans là-bas, donc j'avais 22 ans quand je suis revenue, donc j'étais une gamine, j'étais relou, quoi. Enfin, bref, à 22 ans, t'es chiant, t'es con, t'es jeune, quoi. Bref, donc déjà, de base, j'étais pas dans des configurations, on va dire.
J'étais pas aimable de base.
Non, mais je veux dire, ce qui est, quand t'es au début de ta vingtaine, t'es juste un grand ado, tu te prends pour un adulte, mais t'es rien, enfin, t'es un bébé. Moi, aujourd'hui, quand je me revois il y a 10 ans, qui est cette personne? Enfin, je suis très contente de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli, et voilà, je dis ça vraiment sur le ton humoristique, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, en tout cas, moi, personnellement, heureusement que je suis pas la même qu'il y a 10 ans, parce que ce serait d'une tristesse. Enfin, c'est ça aussi, la sagesse et la maturité que t'acquiers, c'est de la vieillesse, en fait. On appelle ça de la maturité, mais c'est de la vieillesse, en fait, tout simplement. Donc j'étais beaucoup plus jeune et donc beaucoup plus je suis quelqu'un d'assez impulsif et d'assez nerveuse de nature, mais là j'étais mille fois plus nerveuse, mille fois plus, enfin, t'es en colère contre tout le monde, tu vois, tu vis des injustices à chaque événement de ta vie, enfin voilà. Et quand je suis revenu en France, alors autant j'étais contente de revenir pour la bouffe, on va pas se le cacher, hein. Autant les Français, mais j'ai envie de les emplâtrer, quoi. En fait, j'aurais voulu juste ramener la gastronomie française en Floride et vivre là-bas, tu vois. En vrai, les Français, je pouvais pas, quoi. Ces fois, je parlais avec des gens, c'était comme sur la télé, s'il avait pu mettre pause, et partir. Enfin, juste même mettre off, tu vois, genre éteindre la personne et partir, je l'aurais fait, quoi. Et c'est pas condescendant, hein. Parce que faut pas penser que, c'est pas genre je me sens supérieur aux autres ou quoi que ce soit. C'est on dit les voyages forment la jeunesse, et c'est vrai. Genre, voyager, c'est hyper important pour moi, et personnellement, je ne comprends pas, ça veut pas dire que je ne les tolère pas, ce sont deux mots différents, je ne comprends pas les gens qui ne sont pas du tout intéressés par le voyage, parce que ça existe, hein. Pour moi, je comprends pas comment on peut vivre sur une planète si riche et se dire, jusqu'à la fin, je vais voir la même chose. Ça, pour moi, c'est lunaire. Vraiment.
Il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré un monsieur sur Toulon où, en fait, on discutait vraiment de tout et de rien. Mmh. Et on discute. Et en fait, il m'apprend, en fait, qu'il a pas eu de passeport depuis, je crois, 21 ou 22 ans. Et donc, tu sais, tu fais un calcul rapide parce qu'il avait à peu près 65, 66 ans quand même. Et qui me dit, non, mais en fait, j'en ressens pas le besoin, je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai vécu en France, je vais mourir en France. J'ai dit, ah, mais si entre-temps, vous pouvez voir autre chose, ah ouais, non, mais ça m'intéresse pas.
Après, chacun, c'est choix de vie, mais moi, je trouve ça, personnellement, mon avis personnel, c'est que c'est d'une tristesse, mais dramatique, vraiment.
Après, pour beaucoup, comme tu as dit, c'est un choix, après, c'est hyper compliqué. Hein. C'est hyper compliqué. Là, moi, je sais qu'aujourd'hui, ouais, aujourd'hui ou même pour les prochaines années, ne pas voyager, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et après, ouais, c'est comme tout. Si tu voyages un peu, tu as envie de voir ce qui se passe. Puis après, tu as envie de voir, toi, tu l'as fait entre les États-Unis et le Canada. Ben ouais, c'est l'Amérique du Nord, c'est grand, mais bon, je vais quand même aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et du coup, tu te rends compte que ces deux pays qui sont voisins à la culture quasi identique, quasi similaire. Comment dire, il y a énormément de similitudes entre les deux cultures, mais c'est deux pays et deux identités complètement différentes. Donc rien que ça te pousse déjà à aller, ne serait-ce qu'aller à côté, et puis ouais, ça forme la jeunesse, comme tu dis. Et pas pour tout le monde.
Non, c'est sûr. Et après, alors attention, je parle de personnes qui peuvent.
Hein. Oui, non, mais bien sûr, non, ça.
Là, on parle du statut que les personnes peuvent le faire de manière relativement confortable. Voilà. Après, encore une fois, comme je disais, je suis totalement tolérante et je suis pas dans un jugement, mais mon point de vue perso, c'est que je comprends pas. Mais après, et alors après, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je retourne bienvenue dans mon podcast. Pose les questions.
Merci de m'avoir invité.
Avec plaisir. Ça faisait longtemps que. que je voulais te recevoir.
Je pense qu'on va en perdre quelques-uns, là.
Non, j'ai quand même un peu cette conviction au fond de moi que pourra pas être aussi ouvert d'esprit qu'une personne, enfin, une personne qui n'a pas voyagé ne pourra pas être aussi ouvert d'esprit qu'une personne qui a voyagé, mais c'est pas parce que tu voyages que t'es ouvert d'esprit. Parce que pour moi, il y a plein de formes de voyage. T'as ceux qui vont être en mode sac à dos, dormir chez l'habitant, etc., que je suis absolument pas. Et puis t'as ceux qui vont aller, en fonction de, forcément, de la taille du portefeuille aussi, hein, qui vont aller s'enfermer dans leur Club Med ou dans leur je sais pas quoi, faire deux excursions et c'est tout.
Je l'ai vécu il y a quelques années où j'avais conseillé à l'amie d'une amie d'aller en Turquie. Et adorable, elle me dit, bon bah on reste en contact. Elle arrive en Turquie, elle m'envoie des photos, en fait je reconnais pas les lieux. Elle me dit non mais en fait c'était au Club Med. Je pense qu'intérieurement j'ai fait une syncope.
En fait, le truc, c'est que pour moi...
Je comprends pas. Tu peux pas aller en Turquie, qui est au niveau culturel, civilisationnel, qui est un bassin, qui est un berceau, me dire, ouais, non, j'ai passé 2 semaines au Club Med.
C'est-à-dire que, pour moi, si tu pars dans un pays, en plus, qui est quand même très différent de la France, c'est pas comme si... parce qu'après, on a des voisins européens, par exemple, où, certes, c'est différent, mais où il y a quand même beaucoup de similitudes, déjà ne serait-ce que dans la langue, ou ce genre de choses. Mais un pays comme la Turquie, qui est quand même profondément différent de la France, si t'y vas et que tu restes enfermé 2 semaines dans un Club Med, enfin, pour moi, si j'y vais, le Club Med, il me sert de dortoir, tu vois.
Elle m'avait donné la ville où il y avait un Club Med, j'ignorais qu'il y avait un Club Med là-bas, en fait.
Ah, ouais, mais du coup, pour moi, ce qui fait l'ouverture d'esprit, c'est l'échange. C'est l'échange avec les autres.
C'est le voyage, je suis d'accord avec toi. Moi, je pars la première fois que je pars, c'est en 2013 et je reviens. Si je te dis pas de bêtises, on est en décembre 2014 ou janvier 2015. Donc, c'est moins de 2 ans quand même. J'ai perdu des potes. Parce qu'en fait, si tu parles plus la même langue.
Ah oui, non, mais totalement.
Il y a un gap. En fait, si tu te rends compte, en fait, il y a un gap. Et Dieu sait, on a grandi ensemble. On a les mêmes parcours. On a fait les mêmes études. Je suis parti 2 ans, je suis revenu. Mais en fait, t'as l'impression que t'as fait un tour de stade et que tu les retrouves sur la ligne de départ.
Non, mais c'est... Moi, des potes, j'en ai perdu plein même avant mon départ.
Aujourd'hui, mes meilleurs potes, sont dans 5-6 pays, 5-6 pays différents. Aujourd'hui, si je veux faire une soirée avec mes meilleurs potes, ça va être très compliqué.
Et en vrai, c'est pas... Enfin, un truc que je trouve qui est quand même important à rappeler, c'est que c'est pas forcément des personnes qui sont pas françaises. En l'occurrence, en ce qui me concerne, quand on voyage, l'avantage, c'est que on se rend compte à quel point les autres personnes, même en venant de pays avec des cultures vraiment très loin, très éloignées de celles de la France, on se rend compte à quel point il y a beaucoup de gens qui nous ressemblent. Certes, on n'a peut-être pas la même culture, la même gastronomie, on s'habille pas pareil, il y a des choses qui vont choquer l'un et pas l'autre, on n'a pas les mêmes religions, on n'a pas les mêmes langues, on n'a pas tout ça. Mais si tu rencontres des gens de ta génération, en plus on est une génération qui a grandi avec Internet, donc déjà, par définition, ils savent à peu près quand même ce qui se passe chez toi, et tu sais à peu près ce qui se passe chez eux. Et deux, t'es face à des personnes qui sont naturellement ouvertes. Parce que quand tu vas à l'étranger tout seul, déjà, il y a une chose, c'est que c'est important de pas arriver en terre conquise. Et en fait, tu peux te sentir très très bien à domicile quand tu vas chez les autres, plus chez toi.
On en connaît tous.
Mais t'es pas chez toi. Et en fait, t'es en minorité. Et le truc, c'est que si tu joues au coq dans la basse-cour, tu vas très vite te prendre un revers de la médaille. Il faut avoir, je pense, une forme d'humilité et une forme de patience pour accepter de découvrir, de prendre le temps de comprendre certains mécanismes. Il y a des choses qu'on t'intégrera sûrement jamais. Il y a des choses que tu accepteras pas et du coup ça te permet de filtrer, de dire ok ben moi cette destination c'est pas pour moi. J'ai vu et ça va pas. Mais il y a ce respect à avoir de t'es pas chez toi. Parce qu'en plus le français est très particulier, c'est que les Et on sait que les gens qui viennent chez eux, c'est des immigrés, mais eux, quand ils vont quand ils vont ailleurs, c'est des expats. Mais pas du tout, hein. Vous êtes des immigrés pareil, hein. Non, mais ça, c'était important à préciser quand même, parce que tu peux avoir un statut d'expatrié si tu as envie. Déjà, le statut d'expatrié, c'est un statut salarié. C'est pas quelqu'un qui c'est pas quelqu'un qui part comme ça. Il y a des règles sur ce statut. Un expatrié, tu ton entreprise, tu pars travailler à l'étranger. Mais une personne, moi, je me considère pas forcément expatrié, tu vois. Après, on peut jouer sans les mots, mais ce que je veux dire, c'est que j'oublie pas que je suis pas à la maison. C'est pas mon pays, c'est pas le pays dans lequel je suis né, par lequel j'ai été éduqué, dans lequel j'ai grandi. Donc j'ai envie de me sentir chez moi, et c'est l'objectif de ces 2 ans, c'est de voir si j'arrive à me sentir chez moi. Mais donc j'ai forcément une forme d'humilité qui fait que surtout quand t'es tout seul, tu vas peut-être avoir besoin d'aide, et en fait t'es naturellement plus ouvert. C'est bête, mais t'es plus souriant. T'es plus éveillé au sens où tu redoubles de vigilance, mais t'es plus à même d'accueillir pas une prise de contact dans la rue, quelqu'un qui te demanderait quelque chose, ou toi-même en fait d'aller oser demander certaines choses, parce qu'il y a des fois t'as pas le choix en fait. Donc ça remet un peu les points sur les i, je pense. Et il y a une autre chose, c'est que de toute façon un pays ne peut pas s'adapter à toi. Donc, par définition, tu es obligé d'essayer de fitter un maximum avec le moule, quoi. Et si tu vois que tu n'y arrives pas, ça veut dire que c'était pas le bon lieu pour toi. Et c'est OK, c'est pas grave, hein. Des pays, il y en a tellement. Et si le pays qui est le plus optimal pour toi, c'est ton pays de naissance, bah on retourne à la maison, il n'y a pas de problème non plus. Mais ouais, l'immigration, c'est pas de l'eau. Hein. C'est pas rien du tout. Et d'ailleurs, pour revenir sur le vocabulaire expatriation, etc., t'es accueilli par l'immigration. Pas,
C'est
y a pas
ça.
un bureau d'expatriés dans les pays. T'es un migrant.
Le service d'immigration.
Voilà. C'est immigration et réfugié que ça s'appelle en plus ici. Donc,
Oh,
voilà.
le choc que ça doit être pour un pour un étroit d'esprit.
Ah bah oui. Franchement, comment ça, immigré? Je comprends pas. Moi, je suis un touriste, moi, je suis un voyageur. Non, non, c'est...
Non, mais c'est vrai que non, mais comment dire, c'est culturellement, c'est vrai, culturellement, ça doit être un choc. Culturellement, ça doit être un choc. Mais après, tant mieux. Si j'ai envie de te dire, ouais, c'est là où tu, c'est là, je pense que toi, comme moi, comme beaucoup de personnes de notre génération, c'est tu nous prends n'importe où, tu nous poses quelque part, on va pas être en panique. S'il va nous falloir peut-être un temps d'adaptation, mais une fois que tu as compris où était un tel, où était une telle, tu continues. Il y en a qui, moi je connais des gens qui, après là, on peut revenir sur une question de moyens, qui ont les moyens de voyager, qui ont cette capacité de voyager, et qui te dit non, moi je vais dans ce pays parce qu'en fait ça parle la même langue que moi, que chez moi, et je vais dans ce pays parce qu'en fait je suis sûr d'être accompagné par une personne. Ça limite vachement quand même.
Après, je pense que le voyage, ça doit être un kiff, et du coup, il faut, si on, c'est important de se connaître, enfin, en fait, ça a un double sens, c'est-à-dire que c'est important de se connaître pour voyager, mais en même temps, le fait de voyager, ça permet d'apprendre à mieux se connaître.
Tu te connais, c'est ce que je voulais dire. C'est à un moment donné, il faut te jeter à l'eau, quoi.
Bah, c'est ça. Mais après, moi, je sais que quand je me revois, les premiers voyages que j'ai faits, peut-être il y a 10 ans, cette fois, j'étais une petite conne, hein. Enfin, clairement, parce que je voulais ramener ma France, et que vu que ça fonctionnait pas comme en France, bah ça me saoulait. Mais parce qu'en fait, j'avais pas encore cette maturité pour me dire, mais en fait l'objectif, si tu pars ailleurs, c'est pas de ramener chez toi, quoi. C'est pas de ramener du chez toi, c'est de comprendre le fonctionnement d'ailleurs. Aujourd'hui, je pense un petit peu plus cette sagesse, mais quand t'es plus jeune, tu l'as pas forcément. Et après, t'as des personnes qui sont pas jeunes et qui l'ont pas non plus. Si il décide de voyager avec cette mentalité-là, bah grand bien leur fasse. Par contre, moi ce que je tolérerais moins, c'est que si t'as envie de t'enfermer dans ton Hilton, dans ton Club Med, et d'être en mode pool party toute la journée et de absolument pas savoir ce qui se passe dans le reste du pays, bah, fais ta life, c'est pas grave. Au moins tu nourris les acteurs économiques, pourquoi pas. Mais par contre, quand tu te retrouves face à la vie locale, à la population locale, fais pas n'importe quoi, en fait. C'est surtout ça. Et de toute façon, il y a des endroits où tu es très vite remis sur les rails et où tu fais pas n'importe quoi. Faut pas penser que les micro-libertés qu'on peut s'octroyer, nous, chez nous, et je parle vraiment pour la France, ailleurs, mais y a des choses ailleurs, mais tu passes la nuit en garde à vue. Enfin, je sais pas, je veux dire,
Ouais, c'est quoi? Tu te retrouves à appeler l'ambassade à 3h du matin.
Bah, c'est ça. Parce qu'en fait, faut vraiment pas arriver en j'ai tous les droits. En fait.
Il y a un
pays des droits de l'homme,
génial.
Mais c'est pas comme ça que ça marche.
Il y a un podcast que tu dois connaître qui s'appelle Transfert. C'est le podcast de Slate. Et tu as un épisode qui s'appelle La course-poursuite la plus lente de l'histoire. En fait, c'est un Français qui est aux États-Unis. Et en fait, il se fait suivre. Il est suivi par un véhicule de police. Mais il n'a pas commis une grosse faute. Donc en fait, le véhicule de police se met juste derrière lui pour lui expliquer qu'il doit se rabattre.
Ouais.
Mais lui ne se rabat pas. Parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de signaux et tant qu'il n'y a pas de... Comment dire, et tant qu'il n'y a pas de sirène, pour lui, ben, il roule. En fait, il ne se rend pas compte qu'il est en train de bloquer tout l'axe, qui commence à avoir plusieurs véhicules de police derrière lui. Et en fait, parce qu'en fait, il est juste passé il a juste grillé la priorité à un croisement.
Oh, d'accord.
Dans le fond, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas mort d'homme. En fait, il se rend compte, non, que le flic, en fait, fait son boulot calmement. Et lui, dans sa tête, c'est un flic américain. Donc, c'est s'il a un truc à me reprocher, ça va forcément être violent. Donc, étant donné qu'il est juste derrière moi, bah, c'est que j'ai rien fait. Et en fait, il dit au moment où je décide de m'arrêter, il se retrouve avec 5-6 véhicules de flics derrière lui, en fait. Mais la manière dont c'est raconté, en fait, et tu comprends le... c'est que tu as une scène et tu comprends, en fait, les deux points de vue.
Ouais.
Mais c'est hyper intéressant comme approche. Et ça s'appelle la course-poursuite la plus lente de l'histoire. Moi, il y a toujours une question que je pose lorsqu'on arrive vers la fin du podcast, c'est quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite en fait tenter l'aventure à l'étranger en tant qu'expatrié ou en tant qu'immigré? Eh oui, non, faut être...
Dans les deux cas, on est immigré de toute façon. Hein.
Donc, ouais, comment dire, dans les deux cas, tu finis au bureau de l'immigration. Donc...
C'est ton point d'entrée, hein, sinon tu passes pas.
Ce sera émigration, virgule, expatriation, virgule, réfugié, virgule, ouais. Ouvrez la parenthèse.
Détaché, virgule.
Politique, réfugié politique, virgule. Ouais. c'est, comment dire, tu sais, le panneau prend toute la porte et tu cherches où tu es. Ah non, moi c'est touriste, donc c'est la porte à côté. Du coup, quel conseil tu donnerais?
Alors, je dois te parler de liste, hein, mais j'ai déjà des idées en tête. Je pense avant de se lancer tête baissée, je pense que ça peut être pas mal d'avoir fait un premier tour dans le pays, quelques temps, assez suffisamment longtemps, je pense en dessous de 3 semaines, 1 mois, pour moi ça compte pas vraiment, assez suffisamment longtemps pour avoir vécu un petit peu des choses du quotidien. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que, je sais pas, tu pars en vacances de n'importe quoi à Rome et que t'adores Rome et que ça veut dire qu'il faut envisager de partir vivre là-bas, dans le sens où, 2 semaines de vacances à Rome, c'est pas 365 jours à Rome, en fait, avec l'hiver, avec les périodes où il n'y a pas de touristes, avec la vie italienne qui est quand même différente de la France. Enfin voilà, c'est un exemple, mais donc je pense que ça peut être pas mal si on a la possibilité de faire déjà un premier tour dans le pays. La seconde chose, je dirais, c'est de partir avec l'esprit très ouvert, de s'armer de patience et de se laisser le temps, en fait. De se laisser le temps une fois que tu arrives, d'accepter en fait qu'il y a des choses qui vont prendre du temps. Un peu comme mon poste de ce matin, où en fait j'explique que moi par exemple je suis très voiture et sans voiture je suis rien quoi. Genre moi vraiment et du coup là aujourd'hui j'en ai pas et du coup ma mobilité est clairement entravée et ça me gonfle. Mais je sais que ça fait partie du processus. C'est moi qui ai voulu être là, hein, on m'a pas forcé. Donc voilà, c'est des détails un petit peu accepter qu'en fait va falloir bouger un peu le curseur de qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui l'est moins, et d'accepter que certaines choses vont prendre du temps. Je pense aussi qu'il faut s'armer de patience avant le voyage parce que ça peut prendre du temps, ça demande une forme d'endurance. D'autant plus dans le contexte sanitaire dans lequel on est. Moi, je devais partir en septembre 2020, hein, pour te donner une idée. Donc, janvier 2022, ça fait quand même 1 an et demi plus tard.
Je te rassure, j'ai toujours des billets en attente pour le Canada. Et je crois que ça remonte à, c'était ben, il y a un an, février 2021 ou mars 2021, je pense.
Donc, ouais, faut s'accrocher. Faut vraiment s'accrocher. Et si, dans la préparation du voyage, s'il y a bien une leçon que moi j'ai retenue, c'est qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En fait, le truc, c'est que, faut pas compter sur les autres pour t'aider à avancer dans la préparation de ton voyage. Je suis pas en train, je dis pas ça pour faire, la fille aigrie. Je dis juste ça dans le sens où, c'est ton projet, c'est pas celui des autres. Et il faut garder la main dessus. Tu peux demander conseil, mais limite, mieux vaut discuter avec des gens, même si c'est des Français, mais qui sont déjà là-bas. Mais si c'est pour demander conseil à des personnes qui, de toute façon, vont rester en France, qui ont zéro enjeu, par rapport aux réponses qu'ils vont te donner, ou quoi que ce soit, tu peux avoir... moi, je sais par exemple que ma mère a été très investie, forcément, les mamans, les papas, je pense que quand t'es parent, tu t'investis. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, faut pas compter sur les gens pour mettre la main à la pâte. C'est ton projet, c'est ta vie, c'est pas ceux des gens. Au même titre que demain, si tu as des amis, je sais pas, qui veulent fonder une famille, tu vas pas techniquement les accompagner là-dessus. Mais je veux dire, à part offrir des cadeaux de naissance, a priori, tu vas pas être dans un investissement dans leur projet de vie. Bah là, c'est la même chose. Faut le voir vraiment comme un projet de vie. Et voilà, peut-être qu'après, il y a des destinations sur lesquelles il faut se renseigner en termes de sécurité. Faut pas se mentir aussi quand tu es une femme. Voilà, ça aussi, c'est un sujet, je pense, vraiment. Quand t'es une femme, bah, ce sera jamais 100% pareil que quand t'es un mec. C'est con, mais c'est comme ça. Et une fois sur place, faut pas avoir peur de demander, d'interroger des gens, de s'ouvrir. Et par contre, ah oui, c'est marrant, ça, je donne quand même ce conseil.
Je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute.
Pas trop afficher que t'es pas de que t'es étranger. Et je dis ça pourquoi
ça dépend des pays, je suis d'accord avec toi.
ouais, ça dépend des pays et ça dépend du contexte dans lequel tu te trouves. Par exemple, pour les rencontres amoureuses, on va dire, flirt et compagnie, évidemment que ça va se voir parce que si tu maîtrises pas la langue ou si t'as un accent de ouf ou j'en sais rien, à un moment donné, voilà. Mais pas l'afficher, genre pas se mettre un collier autour du cou en mode je suis une étrangère ou je suis un étranger. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pour certaines personnes, tu deviens un peu une proie. Parce que tu as la barrière de la langue, parce que tu as aussi des nuances culturelles que t'as pas, du coup. Et tu as des personnes qui peuvent chercher à en profiter. Je dis pas que c'est forcément le cas, mais ça, comme partout, t'as des gens un peu malsains, hein. Et par expérience, ne pas trop. Et le problème, c'est que vu que t'as la barrière de la langue, ça va être compliqué soit de te défendre, soit d'exprimer en fait de manière explicite ce que tu veux, ce que tu veux pas. Enfin, selon les circonstances et selon les pays, peut-être attendre d'avoir un peu plus d'être en confiance, d'avoir déjà certains repères, de comprendre un peu le fonctionnement des gens là-bas pour s'embarquer avant de s'embarquer dans des bah, soit des relations ou soit des expériences avec des personnes qui n'auraient pas de bonnes intentions, en fait. Mais qui se comporteraient pas forcément comme ça avec leurs compatriotes. C'est uniquement parce que c'est plus facile. Enfin voilà, parce que quand on est à l'étranger tout seul, on peut vite se sentir seul, on peut vite se sentir... enfin on est sans repère, etc. Et du coup, on s'accroche à presque n'importe qui ou n'importe quoi. Et ça peut, enfin, on peut se retrouver dans des situations parfois limite dangereuses en fait. Et pour l'avoir vécu, je sais qu'aujourd'hui, c'est un point de vigilance que j'ai vraiment. Donc, si je peux donner cette reco, surtout quand on est jeune, faites attention à vous, quoi. Prenez soin de vous, vraiment.
Voyager tout en faisant gaffe, mais voyager quand même.
Bien sûr. Toujours.
Le voyage avant tout.
Bien sûr.
Léa, bah écoute, je te remercie pour l'heure qu'on vient de passer ensemble. Merci pour tes
Merci à
conseils,
toi.
merci pour ton point de vue. Ouais, c'est toujours intéressant de parler. D'habitude, on parle entrepreneuriat sur le podcast. Mais là, aujourd'hui, on a complètement dévié puisqu'il y a pas mal de sujets qui sont bien trop souvent, en fait, complètement oubliés. Comment dire, là, on est sur une trentaine de numéros. C'est la première fois qu'on parle comment dire, qu'on aborde ce sujet. Donc, non, écoute, merci à toi d'avoir écrit ce post qui a titillé ma curiosité et qui a donné naissance à ce numéro. Je te remercie. Je te dis, écoute, à dans 2 ans, si tu reviens en France ou à bientôt, si jamais je passe par le Canada. Faut vraiment que je
Eh
fasse,
bien,
faut vraiment que je
merci.
fasse, faut vraiment que je fasse un truc de ces billets d'avion.
Ouais. Prends une décision là, vraiment.
Je crois que je
Non,
reçois
mais
de
merci.
la Lufthansa tous les 4-5 mois. On fait quoi? On repousse.
En tout cas, merci à toi. C'était cool de pouvoir échanger. Merci du coup pour l'invitation et pour ta confiance aussi. Il faut avoir confiance pour inviter quelqu'un. Donc merci pour ça.
Je t'en prie, c'est normal. Et merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de ce nouveau numéro. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.